Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Amour. Ce soir, l'État doit-il liquider ses bijoux de famille ? Plusieurs fois repoussée, la voilà enfin qui apparaît. La loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, a été présentée cet après-midi en Conseil des ministres. Le texte propose notamment un nouveau cadre juridique pour permettre à l'État d'engager un plan de privatisation. Trois entreprises sont concernées, Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Dès que la loi aura été adoptée, sans doute pas avant début 2019, l'État pourra vendre tout ou partie de ses participations. Alors, à supposer qu'ils les vendent toutes et que la valorisation de ces entreprises reste stable, l'opération pourrait rapporter jusqu'à 19 milliards d'euros. De quoi contribuer au désendettement de l'État, mais aussi de quoi financer le programme d'investissement voulu par le gouvernement. C'est en tout cas la double affectation défendue par le ministre de l'Économie et des Finances. Mais pour Bruno Le Maire, privatiser, c'est aussi une question de principe. Il l'a dit la semaine dernière dans une interview au journal Les Échos. L'État n'a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles à la place d'actionnaires qui ont les compétences et les savoir-faire pour le faire mieux que lui. Fin de citation. Alors est-ce toujours le cas ? Le secteur privé fait-il vraiment toujours mieux ? Certaines entreprises ont-elles vocation à rester avec des capitaux publics et donc sous contrôle étatique ? Bref, l'État doit-il liquider ses bijoux de famille ? C'est la question du soir en compagnie de deux invités. Eli Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Et Philippe Léger, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste également, maître de conférence à l'université de Picardie Jules Verne et membre des économistes atterrés. Alors on va aller tout de suite dans le dur du sujet, évoquer cette triple privatisation qui est prévue d'ici quelques mois. Donc Aéroports de Paris, je rappelle, la Française des Jeux et Engie. Engie, pour mémoire, c'est l'ex-GDF Suez. Premier tour de table d'abord, j'aimerais savoir si pour vous c'est plutôt une bonne ou plutôt une mauvaise idée. Eli Cohen, je commence par vous.
Très franchement, les grands débats sur les privatisations sont derrière nous. Et je dirais que ce qui est en train de se passer est un non-événement. On a eu un premier grand débat pour savoir si les entreprises, nos champions nationaux, qui étaient à la tête de filières industrielles majeures, les compagnies générales d'électricité, les Saint-Gobain, etc., devaient être privatisées ou pas. Et puis on avait conclu que les entreprises du secteur concurrentiel avaient plutôt vocation à être remises sur le marché. Ce débat est derrière nous. Deuxième grand sujet qu'on a eu, c'est est-ce que les entreprises de services publics, les France Télécom, les EDF, etc., devaient être privatisés ou pas. Puis on en a beaucoup débattu et finalement on a considéré que l'État pouvait céder une part plus ou moins importante du capital, surtout si ça devait favoriser des alliances européennes. C'est comme ça qu'on était entré dans le débat, notamment sur France Télécom. Puis maintenant la question est derrière nous, plus personne ne discute véritablement le point de savoir si une entreprise de service public peut être partiellement privatisée ou pas. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir s'il y a des domaines où véritablement le contrôle de l'État doit rester absolument présent. Et là, on considère que lorsqu'il s'agit d'entreprises de réseau, par exemple le réseau d'électricité, c'est quelque chose qui doit être conservé. Ou bien lorsque le secteur en question est un secteur où il y a des enjeux de souveraineté majeurs. C'est la question de la défense, la question du nucléaire. Donc le débat porte plus sur ces questions-là. Je termine d'un mot. Franchement, la Française des Jeux ou Aéroports de Paris, par rapport au débat que nous avons eu et que nous avons déjà tranché, ce ne sont pas des problèmes particulièrement importants.
Justement, avant de passer la parole à Philippe Léger, je voulais savoir dans quelle catégorie vous voulez placer ces trois entreprises, Engie, Aéroports de Paris et Française des Jeux.
Alors, Engie, c'est typiquement l'entreprise de service public qui a déjà été largement privatisée, puisque l'État a déjà privatisé cette entreprise à hauteur de 70%. C'est l'ancien Gaz de France qui a été fusionné avec Suez. Et donc, la question aujourd'hui, est-ce que l'État doit passer d'une situation dans laquelle il a 30%, une situation où il aurait 15%. Vous voyez bien, en matière stratégique, en matière décisionnelle, Engie est déjà une entreprise qui se gère elle-même. Donc il n'y a pas d'enjeu stratégique décisif, puisque s'il y avait enjeu stratégique, par le passé, ça a été tranché. La Française des Jeux, c'est une entreprise qui était une entreprise publique, qui n'était pas cotée, mais qui était surtout caractérisée par un monopole que l'État exerçait et qui lui permettait d'avoir un contrôle très détaillé sur son activité. Est-ce que ça doit rester dans le public ? Non, si on crée une autorité de régulation des jeux qui permettra de limiter cette activité, eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière à estimer que c'est une entreprise qui doit être privatisée. Et enfin, Aéroports de Paris, il s'agit de privatiser une concession en transformant l'entreprise en concession et en gardant le contrôle que l'État exerce sur les concessions, notamment en matière tarifaire. Donc je dirais que c'est une entreprise qui rentre dans le secteur concurrentiel à partir du moment où il ne s'agit que d'une concession. Et donc, l'État peut parfaitement privatiser.
Alors, ce sont donc, à vous écouter, l'icône des privatisations qui vont passer comme une lettre à la poste, dans la mesure où elles ne relancent pas un débat de fond sur ce que devraient ou ne devraient pas être les privatisations. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Philippe Léger ?
Alors, d'un certain point de vue, c'est exact, dans le sens où effectivement ces trois dossiers sont moins importants que ceux qui ont été traités dans les décennies passées. Mais néanmoins, si ça fait aujourd'hui 32 ans que l'on privatise, eh bien, il existe toujours un débat quant au bien fondé de ces privatisations. Il existe un bilan à tirer des privatisations passées. Et puis, je dirais que sur ces trois dossiers précis, il existe néanmoins des enjeux importants. Donc, de mon point de vue, pour répondre à votre question initiale, c'est une mauvaise nouvelle, une décision que je ne comprends pas à plusieurs égards, mais on va pouvoir y revenir.
Bah, on peut peut-être y revenir d'ailleurs tout de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous paraît le plus problématique dans le fait de vouloir justement se désengager de ces trois entreprises ? Est-ce qu'il y en a une pour laquelle c'est suffisamment sensible pour justifier le fait que l'État se maintienne au moins au niveau où il est actuellement ?
Alors, je dirais que les choses se posent pas de la même façon pour les trois entreprises. Mais bon, si on prend d'abord le cas de la Française des Jeux, je dirais que avant même de savoir qui de l'État ou du privé doit contrôler ou gérer telle ou telle production, la première question en amont, c'est que produire, qu'est-ce qu'on autorise comme production. Ensuite, l'État décide ou non d'effectuer cette production. Or, les jeux d'argent, c'est quand même une production assez particulière qui pose au moins deux types de problèmes. D'une part, qui peuvent servir au blanchiment d'argent issu, je dirais, d'activités criminelles ou terroristes ou autres. Et puis, deuxièmement, ils sont surtout liés à un fort risque d'addiction. Et donc, c'est un produit dangereux qui provoque le malheur d'une partie des 26 millions de personnes qui le consomment. Une partie d'entre elles, hein, pas, je ne généralise pas.
Oui, mais alors dans ce cas, il vaudrait mieux, plutôt que de se dire il faut que l'État reste majoritaire au capital, il faudrait peut-être plutôt les interdire.
Alors justement, le premier débat, c'est est-ce qu'on l'interdit ou pas ? Néanmoins, soit on l'interdit, soit on pense que la prohibition est inefficace, que les jeux d'argent auront néanmoins lieu, etc., et qu'il faut encadrer. Mais alors, l'encadrement, à mon sens, serait meilleur si c'est une entité publique qui s'en charge, parce que, dans le cas contraire, ce qu'on va voir là avec cette privatisation, c'est un conflit d'intérêts permanent, puisque on va avoir une entité qui devra dans le même temps prévenir une addiction dont elle tire un profit, profit dont ses actionnaires veulent l'accroissement indéfini. Donc voilà, je pense, et d'ailleurs ce qu'a dit l'ancien président de la Française des Jeux, hein, qu'il était difficile d'arbitrer entre les résultats de l'entreprise et sa responsabilité sociale.
Avant peut-être de passer aux deux autres cas, hein, Philippe Léger, mais je voudrais quand même faire réagir Élie Cohen sur cette question. Effectivement, les jeux d'argent, c'est quand même, ça paraît quand même plus logique et plus normal que ce soit l'État qui en est la maîtrise, plutôt que de laisser ces questions au secteur privé.
Ça, c'est l'erreur type qu'on commet. La question n'est pas de savoir si l'État doit intervenir. Bien entendu, l'État doit intervenir dans ces jeux d'argent, dans ces jeux de hasard, pour prévenir les phénomènes d'addiction, pour prévenir des comportements à risque, etc. Bien entendu, c'est le rôle de l'État. Mais en quoi la propriété du capital de l'entreprise est-elle la réponse ? C'est vraiment l'erreur qu'on commet depuis toujours. Si on estime, que c'est une activité nocive, comme vous l'avez dit, il faut l'interdire. Si on estime que c'est une activité qui peut couvrir des actes délictueux, à ce moment-là, c'est une responsabilité de la police, du ministère de l'Intérieur. Si on estime que l'État est une espèce de persévère qui doit veiller au comportement vertueux des individus, mais à ce moment-là, on met en place un système de régulation efficace. En quoi la propriété du capital est-elle une réponse à ces trois enjeux qu'on vient de voir ? C'est typiquement l'erreur dont je croyais qu'on était sorti au cours des 30 dernières années, puisqu'on avait su faire la part entre la responsabilité de l'État actionnaire, la responsabilité de l'État régulateur et la responsabilité de l'État puissance publique. C'est à vouloir confondre les étiquettes qu'on n'avance pas dans le débat.
Philippe Léger, effectivement, est-ce que le plus important, ça n'est pas que l'État conserve son pouvoir de régulation, alors en particulier sur la question de la FDJ, de la Française des Jeux, mais ce sera aussi le cas s'agissant d'Aéroports de Paris. Et on peut d'ailleurs ajouté pour la FDJ que les recettes fiscales, par contre, l'État va continuer à les toucher. Hein. Ce n'est pas parce qu'il va privatiser qu'il n'aura plus les recettes, ce qui là aurait peut-être posé davantage de problèmes.
Il va conserver les 3 milliards de recettes fiscales, mais ce n'est pas la totalité des recettes. Concernant le point précédent, donc je ne suis pas du tout d'accord. Effectivement, on a un désaccord sur ce point. À mon sens, il y a une contradiction dans le fait d'être propriétaire d'une activité dont on doit soi-même accepter la modération de certains aspects. Alors effectivement, il peut y avoir une régulation par une autorité publique indépendante, etc. Mais on a vu aussi beaucoup de régulations défaillantes par le passé où on nous avait promis ce type de montage. On pourra reparler tout à l'heure peut-être de ce qui s'est passé avec les autoroutes, par exemple, où un certain nombre de garanties étaient supposées données et où le régulateur, effectivement, n'a pas pu prévenir des dérives. Or, la dérive, je dirais, elle est inscrite dans le fait qu'il y a des actionnaires qui souhaitent une rentabilité maximale, et donc la Française des Jeux sera incitée à développer des jeux plus attractifs, plus additifs, et peut-être qu'elle consacrera quelques euros à des actions de prévention à caractère plus ou moins symbolique.
Bon, mais cela dit, alors, l'addiction, le blanchiment d'argent, ça c'est quelque chose qui effectivement peut se retrouver dans les jeux d'argent, mais alors s'agissant de l'aéroport de Paris et d'Engie, a priori c'est pas des risques qui sont courus. Est-ce que ça veut dire
j'ajoute juste un point quand même. Oui, il n'y a pas eu de prévention de l'addiction à cause de la participation publique. L'addiction, elle est largement développée aujourd'hui, alors même que l'État est encore aujourd'hui actionnaire à 100%. Donc croire un seul instant que la seule présence de l'État au capital va faire reculer l'addiction relève, à mon avis, d'un conte de fées.
Pour Aéroport de Paris, Engie, Philippe Léger.
Alors je le disais tout à l'heure, ce sont des cas assez différents. Pour dans un premier temps, Aéroport de Paris. Il y a de nombreux aéroports qui sont privatisés dans le monde. Je crois qu'il y en a aujourd'hui à peu près 40% qui sont déjà privatisés. C'est la tendance. Une tendance qui inquiète l'Association internationale des compagnies aériennes, IATA, qui a publié un rapport il y a quelques jours disant que les aéroports privatisés sont significativement plus chers que les homologues du public. Et je pense que derrière cette alerte, de la part de compagnies qui sont assez peu suspectes d'être antilibérales, il y a une inquiétude par rapport à un phénomène réel qui est qu'on risque de créer une vraie usine à gaz. Ça, c'est le risque sur l'aéroport de Paris. Il y a des enjeux extrêmement importants en matière de sûreté, risque d'attentat, etc., de sécurité, régulation du trafic, d'investissements très lourds à effectuer. L'État va conserver évidemment la main là-dessus. Personne ne propose le contraire, heureusement. On va finalement avoir une multiplicité d'acteurs avec un cahier des charges, avec un contrat de régulation renégocié tous les 5 ans, etc. Je pense qu'on va avoir une très grande complexité dans la gestion de ces aéroports et qu'au final, ce sera moins efficace et plus cher.
Est-ce que vous répondez la même chose sur ce sujet, Eli Cohen? C'est-à-dire à partir du moment où l'État conserve la régulation, alors la régulation par rapport à la sécurité aux frontières et puis par rapport bien sûr au contrôle aérien, qui est un élément bien sûr extrêmement important, c'est suffisant pour ne pas s'inquiéter et pour considérer que l'État n'avait pas spécialement vocation à avoir des parts dans les aéroports, en l'occurrence ceux de Paris.
Je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord commencer par un petit rappel. Pourquoi parle-t-on de privatisation? Pourquoi diable l'État s'engage-t-il dans une opération de privatisation? Je veux dire, l'État aurait parfaitement pu se satisfaire de garder ses entreprises qui produisent des dividendes réguliers, etc. Mais il ne vous a pas échappé quand même qu'on est dans une situation qui mérite d'être caractérisée. La France, le gouvernement, l'État français portent une dette de plus de 2000 milliards d'euros. Donc quand vous êtes endetté de plus de 2000 milliards d'euros, le fait que vous ayez des participations par ailleurs, ça vient après s'imputer quelque part, à distance, sur la dette que vous avez. C'est-à-dire, si vous raisonnez en termes d'actifs nets, il faut bien à un moment faire la balance de vos actifs et de vos dettes. Donc, il se trouve que nous devons nous occuper de notre dette. C'est un premier élément qui fait que l'État, de temps en temps, se demande s'il n'y a pas des actifs à céder pour diminuer la dette, premièrement. Deuxièmement...
Alors, 19 milliards d'euros, c'est pas énorme par rapport à la dette.
Non, bien entendu. Je dis juste qu'il ne faut pas partir d'une situation où l'on pense qu'il n'y a pas de problème de finances publiques. Il y a au départ un problème de finances publiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement Balladur en particulier s'était engagé à un moment dans des privatisations massives. C'est parce qu'il y avait déjà ce problème de dette publique. Le problème de dette publique n'a pas disparu depuis. Il a fortement cru, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas que ce problème de dette publique. Il se trouve que l'État veut diversifier son action. Et il se trouve que ce gouvernement, on est d'accord ou pas, estime qu'il doit financer ce qu'il appelle l'innovation de rupture. Et il veut créer un fonds doté de 10 milliards d'euros pour financer l'innovation de rupture. Les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas considérables. Donc le fait que l'État cède des actifs qui a priori ne sont pas très glamour pour financer des actifs qu'il serait davantage est a priori une chose qui peut parfaitement se comprendre et se défendre. Maintenant, j'en viens à la question essentielle. Que cède l'État véritablement ? Il va céder une concession de service public qui, au bout de 70 ans, va lui revenir intégralement, notamment...
Là, on parle d'aéroport de Paris.
On parle d'aéroport de Paris. Notamment les terrains, etc., sur lesquels l'entreprise va investir avec des capitaux privés, etc. Tout revient à l'État au bout de 70 ans. Donc, je veux dire, où est le problème ? Où est le problème ? Qu'on m'explique en quoi la sécurité des passagers serait mieux garanti par une participation de l'État dans le capital et non pas par la qualité de la police des frontières et la qualité de la régulation.
Et c'est peut-être ce que va nous expliquer Philippe Léger sur ce point précis, justement, de la sécurité. Et après, on reviendra sur l'affectation, effectivement.
Sur les finances publiques ?
Oui. D'accord. Mais sur cette question de la sécurité, ça change quoi, en fait ?
Alors, sur ce point, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de sécurité, qu'elle ne sera pas assurée, etc. Mais je pense que ce sera plus coûteux. Je pense qu'effectivement, ce que l'on voit et qui est très bien décrit dans le dernier ouvrage de David Graeber, qui s'appelle La bureaucratie, et qui montre que, dans bien des cas, la mise en concurrence et les privatisations conduisent à une augmentation de la bureaucratie, on va voir la multiplication d'autorités de contrôle, de réunions, de paperasses, etc. Et je ne suis pas sûr que ce soit plus efficace qu'une entité intégrée, vu la complexité de l'activité et des normes à respecter dans les aéroports.
Donc c'est moins en termes de sécurité, mais qu'en termes d'intérêt général, que l'opération n'est pas forcément intéressante. Alors c'est vrai, sur ce point-là, on va vraiment revenir sur l'affectation de cet argent une fois que la privatisation aura eu lieu, pour voir si on peut effectivement justifier, notamment par la conjoncture économique, le fait de devoir un petit peu se désengager. Mais sur la question de l'intérêt général, Élie Cohen, c'est vrai qu'il y a quand même un précédent. Alors c'est peut-être le précédent, un espace de point Godwin de la privatisation, mais c'est la privatisation des autoroutes en 2006 qui ont été vendues à Vinci, Eiffage et à Abertis. Alors on a dit que le prix de vente avait été sous-évalué, qu'il y avait ensuite eu une augmentation des tarifs des péages. Or à l'époque, en juillet 2005, quand on commence véritablement à entrer dans le dur de ces privatisations, ce n'est pas du tout la façon dont on en parle. Écoutez cet extrait d'un journal télé de France 2.
L'État a décidé de vendre la totalité de ses participations.
C'est au moment où ils sont des millions à les utiliser que les Français apprennent que les grands réseaux d'autoroutes vont être privatisés. Et il est vrai que même privatisées, les sociétés concessionnaires doivent respecter les prix décidés par l'État.
En ce qui concerne les tarifs, tout est déjà fixé sur le très long terme, donc ça ne changera pas. Par contre, nous espérons avoir beaucoup d'innovations possibles, nécessaires du reste.
Des innovations donc sur les trois réseaux, ASF, SANEF et Autoroute Paris-Rhin-Rhône, dans lesquels l'État détenait encore une participation. Leur vente à des entreprises privées devrait lui rapporter 11 milliards d'euros. Jusqu'à présent, les autoroutes rapportaient à l'État actionnaire des centaines de millions d'euros réinvestis ensuite dans le ferroutage ou dans de nouvelles lignes TGV. Une source de revenus dont il devra désormais se passer.
Je crois que c'est une réponse de court terme. On dit parfois qu'on vend les bijoux de famille. On ne vend pas les bijoux de famille, on vend la poule aux œufs d'or. Et je pense qu'il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire que nul ne sait comment seront financées les infrastructures de demain.
Le gouvernement s'engage à trouver d'autres moyens pour développer le rail. Il compte notamment sur la manne récoltée par les radars automatiques.
L'extrait d'un journal donc de juillet 2005, on est juste avant la privatisation des autoroutes. Le premier intervenant qu'on entendait, c'était Thierry Breton, le ministre de l'économie de l'époque. Et Élie Cohen, c'est vrai qu'alors à l'époque, on dit voilà, ça va être super la privatisation des autoroutes. Et puis les automobilistes se sont rendus compte que finalement, ils y avaient plus perdu peut-être qu'il n'y avait gagné.
Mais ce n'est pas les automobilistes, ce dont on s'est rendu compte.
Le prix des péages.
Attendez, ce dont on s'est rendu compte après coup, c'est que l'État n'avait pas pris les précautions élémentaires pour pouvoir continuer à peser sur les péages par la régulation, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu simplement privatisation, en l'occurrence, mais il y a eu aussi libéralisation complète de la tarification des autoroutes. Et d'ailleurs, c'est bien parce que l'État s'est rendu compte des insuffisances de son action à l'occasion de la privatisation des autoroutes que là, dans le cas de la privatisation d'ADP, il veut continuer à peser sur les péages pour que vont payer les compagnies aériennes pour accéder aux plateformes aéroportuaires avec un mécanisme de contractualisation sur 5 ans des évolutions des péages. Justement, vous devriez remarquer que l'État, lorsqu'il commet une erreur, sait apprendre et justement l'expérience des autoroutes a été tout à fait intéressante. J'ajoute juste un petit élément. J'espère qu'on reviendra tout à l'heure sur toutes les privatisations qui ont été faites, notamment d'entreprises services publics et qui ont ruiné les petits actionnaires.
Eh ben, on aura l'occasion d'y revenir effectivement. Philippe Léger, en tout cas sur ce point, sur la réponse d'Eli Cohen.
Alors sur les autoroutes, je pense qu'il y a deux points importants. D'abord, il faut bien comprendre que c'est un fiasco total. Il y a premièrement la question du prix d'acquisition. On a effectivement bradé le patrimoine public. À l'époque, Villepin disait c'est une bonne affaire pour l'État, parce que dans ses services, certains avaient estimé à moins de 15 milliards. Alors on vend à 15 milliards, c'est bien. Mais rien que les 5 premières années, alors que c'est une concession qui finalement court sur 28 ans, rien que sur les 5 premières années, les acquéreurs, les sociétés Vinci, Eiffage, etc., enfin leurs filiales, ont versé 5 milliards de dividendes à leurs actionnaires, ont économisé 1,5 milliard d'impôts en déduisant le coût de l'endettement de leurs filiales, de leurs résultats fiscaux. Le prix moyen du kilomètre a augmenté de 16 à 17% les 5 premières années. Et dans le même temps, on a réduit les effectifs. Le nombre de salariés a chuté de 14%. Donc, vous baissez les coûts, vous augmentez les prix. Le bénéfice réalisé par kilomètre, les 5 premières années, il augmente de 30%. Et à l'époque, on avait dit qu'il y avait des garanties. Voilà, ça, je pense, c'est le deuxième point, c'est que il y avait un contrat.
Justement, ce qui apparaît, c'est qu'il n'y avait pas ces garanties.
Mais
il n'y avait pas de contractualisation.
Alors, il n'y avait pas de contractualisation, mais il y avait un contrat. Le contrat.
Il n'y avait pas une autorité régulatrice qui devait autoriser les évolutions tarifaires.
Il y a une différence avec ce qui est proposé actuellement dans la loi PAC, mais il y avait quand même à l'époque un contrat qui prévoyait des augmentations de tarifs, je cite, dans des proportions très légèrement supérieures à l'inflation. En fait, ça a été le double de l'inflation. Il y avait une autorité de concurrence. Elle ne fait que constater le fiasco. Communiqué en 2014 de cette autorité, je vous cite, on observe très clairement, outre que les bénéfices des sociétés concessionnaires ont doublé depuis 2004, que la politique de distribution des dividendes a radicalement changé après la privatisation. En effet, alors que les sociétés en question distribuaient en moyenne 56% de leurs bénéfices à leurs actionnaires précédemment, eh bien cette part atteint 136% en moyenne les 8 années suivantes.
Tous ces chiffres, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que si on se lance sur ce terrain, là je vais parler de la privatisation d'EDF, et je vais parler des petits actionnaires qui ont acheté leur action à 54 euros, qui vaut 10 euros aujourd'hui.
Mais c'est un autre
dossier. Mais juste pour dire, on peut faire dire ce qu'on veut. On est d'accord sur le point de précis qui est que l'État a mal négocié et n'a pas pris les précautions nécessaires au moment de la privatisation des autoroutes. Bon, si on veut comparer strictement la privatisation des autoroutes à la privatisation d'ADP aujourd'hui, on peut juste remarquer une chose, c'est que ADP est cotée en bourse et elle a un PER qui est absolument astronomique. Un price earnings ratio, c'est-à-dire le multiple de bénéfices dans la valorisation. Ce qui fait d'ailleurs que tous les experts et les analystes financiers de la place de Paris aujourd'hui recommandent surtout de ne pas acheter ces actions si l'État venait à les privatiser, parce qu'une entreprise comme ADP est déjà formidablement valorisée. Donc si vous voulez, on est d'accord pour estimer que la privatisation des autoroutes, ça n'a pas été génial, que l'État n'a pas pris les précautions nécessaires d'un point de vue contractuel, que l'autorité de régulation était une autorité sans dents, mais on est en train de parler là des privatisations qui sont sur le terrain, notamment ADP. Parlons en détail d'ADP, si vous voulez.
Alors, vous évoquez justement le fait que ce ne sont pas forcément des actions qui vont être achetées, en tout cas sur lesquelles les investisseurs pourraient se précipiter. Ça pose effectivement aussi la question de à qui est-ce qu'on vend. Il ne suffit pas de vouloir privatiser, mais à qui est-ce qu'on vend? Est-ce que l'idée notamment de relancer l'actionnariat populaire, comme l'a dit Emmanuel Macron, est-ce que ça ne peut pas être justement aussi une bonne façon de faire se réapproprier certaines entreprises par les citoyens, plutôt que d'avoir ces entreprises qui appartiennent en majorité à l'État, Philippe Léger?
Alors, la question à qui on va vendre est une excellente question. Mais en l'occurrence, puisque si ce sont des ménages, des particuliers qui achètent une petite fraction du capital, ce sera une petite partie. Donc il me semble qu'avant, il faut se poser quand même la question de savoir qui va acheter la plus grosse part. Et le risque, c'est ce que je soulignais tout à l'heure avec la question des conflits d'intérêts, le risque c'est que certains opérateurs privés, par exemple au hasard, si un opérateur privé issu du BTP, Vinci, achetait une fraction importante du capital, il pourrait se retrouver dans une telle situation, dans le sens où il aurait à la fois à gérer et à entretenir les bâtiments, les infrastructures, etc. Et donc bénéficier d'une rente de situation, même si le PER est effectivement extrêmement élevé, ceci peut compenser cela.
Eli Cohen, quand on privatise, on ne peut pas vendre à n'importe qui. Je fais référence par exemple à l'aéroport de Toulouse, avec des investisseurs chinois. Ça crée beaucoup de polémiques, essentiellement parce que l'investisseur justement était chinois. On se disait que c'était une forme de perte de la souveraineté sur nos aéroports. Est-ce que ça doit entrer en ligne de compte, ou bien est-ce qu'il faut aller au bout de la logique et se dire, puisqu'on privatise, peu importe qui vient acheter derrière.
En l'occurrence, il s'est révélé par la suite que l'acheteur chinois n'avait pas les qualités qui avaient été requises, c'est-à-dire que les garanties financières qui avaient été données, la capacité d'investissement qui avait été anticipée ou qui avait été annoncée, ne se sont pas retrouvées vérifiées à l'arrivée. Donc là aussi, il arrive dans un certain nombre de cas, et ce cas est également un cas notable, il arrive que l'État ne fasse pas bien son travail. Et là, en l'occurrence, dans cette privatisation, l'État n'a pas bien fait son travail parce que il a considéré que les garanties formelles qui étaient données par cet investisseur étaient suffisantes, et donc il s'est comporté moins bien qu'un banquier d'affaires lambda.
Mais à contrario, est-ce qu'il arrive que l'État fasse bien son travail et le fasse tellement bien que cela justifie le fait qu'il reste très présent au capital de certaines entreprises? Est-ce que l'État actionnaire peut être un bon État entrepreneur?
Non, ça c'est une contradiction dans les termes. Si vous voulez, l'État dans l'histoire économique française a été un moment un entrepreneur. J'ai écrit, comme vous le savez, un ouvrage qui s'appelait « Le Colbertisme high-tech » où j'ai montré comment l'État a créé de toutes pièces des écosystèmes industriels dans les télécoms, l'aéronautique civile et militaire, le nucléaire. L'État, par la politique de la préférence nationale, par la politique de la commande publique, par la politique du protectionnisme offensif, par la politique de la recherche, toutes ces politiques étant intégrées, a réussi à constituer de véritables champions nationaux et a réussi une formidable histoire de rattrapage.
Alors c'est pas contradictoire, alors.
Non, attendez. Ça, c'est ce qu'on a fait après-guerre, de 1945 jusqu'en 1975, si vous voulez. Et puis après, il se trouve qu'on a fait un certain nombre de choix collectifs. Un, l'intégration européenne. Deux, la participation à l'Organisation mondiale du commerce. Trois, la fin des stratégies protectionnistes, la fin des politiques de préférence nationale et la constitution d'entreprises qui ont connu ensuite l'essentiel de leur développement hors de France. À partir du moment où vos champions nationaux tirent l'avantage de leur activité et de leurs résultats de leur activité hors de France, comment voulez-vous interdire aux investisseurs étrangers de venir investir chez nous? Premièrement. Deuxièmement, à partir du moment où des entreprises qui avaient avant des missions de service public sont devenues des entreprises de service privé. Qu'est-ce que c'est que la communication téléphonique aujourd'hui, si ce n'est un service privé? Pourquoi garder les cadres organisationnels qui étaient justifiés du temps où on était dans un monopole national verticalement intégré? Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'histoire des 20 ou 30 dernières années, c'est une histoire de mondialisation, d'européanisation, de libéralisation. Et dans ce cadre-là, il était tout à fait normal qu'un certain nombre d'entreprises qui avaient été longtemps publiques et qui avaient réussi comme entreprise publique soient aujourd'hui privatisées. La question qui se pose pour nous, c'est que signifie le maintien de ces participations résiduelles? Est-ce qu'elles sont justifiées, en gros, Cormarm, anti-OPA, anti-prise de contrôle hostile? Oui, c'est probablement justifié dans un certain nombre de cas. C'est pour ça que l'État, par exemple, n'a pas franchi la dernière étape pour la vente des actions qu'il détient dans une entreprise comme Orange.
Et puis c'est peut-être aussi une façon de se garder quelques réserves pour pouvoir être confronté à une conjoncture un petit peu moins favorable. Et ça permet aussi de récupérer un petit peu d'argent. Philippe Léger.
Je pense que ce qui pèse très lourd dans le débat actuel, c'est un certain nombre de fiascos passés. Bon, tout à l'heure, on a évoqué les péages des autoroutes. C'était votre sujet, j'en ai parlé, mais c'est le ministre lui-même qui en a parlé. C'est Bruno Le Maire qui s'est senti obligé, présentant la loi PAC, de dire « Nous ne reproduirons pas l'erreur qui a été faite pour les péages d'autoroutes ». Et je pense que de très nombreux Français sont très insatisfaits de façon légitime par rapport à ce dossier. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu également la parole qui avait été donnée sur le dossier de GDF. À l'époque, Nicolas Sarkozy, devant l'Assemblée nationale, avait promis que l'État ne descendrait pas en dessous du seuil de 50%. Bon, aujourd'hui, on est en train de céder les dernières parts du capital d'Engie.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une loi. C'est pour pouvoir justement passer en dessous de certains seuils.
Pour le fait que lorsqu'on a décidé il y a 20 ans, 30 ans, qu'on ne descendrait pas en dessous de 50%, on ne descende jamais en dessous de
30%. Alors non, effectivement, je pense que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire.
Gaz de France.
Le problème avec...
Engie, juste un point sur Engie. Il y a 2-3 ans, Engie disait que sa grande spécialisation, c'était le nucléaire, notamment en Belgique, et le gaz naturel liquéfié. C'était ça les deux spécialisations. Engie est en train de changer complètement de métier. Ça devient une entreprise de service à l'industrie. Alors, ils sont en train de se désinvestir de tout ce qui était leurs actifs lourds.
Le non-respect de la parole donnée était quand même dans un horizon beaucoup plus court, puisque la citation que je donnais Nicolas Sarkozy, c'était en 2004. En 2005, on a une introduction en bourse. En 2005, introduction en bourse, et en 2008, c'est privatisé.
Ben oui.
Donc voilà, c'est quand même extrêmement rapide. Et effectivement, ce que vous dites est juste, ce qu'a fait une loi, une autre loi peut défaire, mais de ce fait, je dirais, on peut comprendre l'inquiétude, par exemple, des cheminots et d'une partie de la population sur le cas de la SNCF, bien que l'on dise que le capital sera incessible, etc. Eh bien, il y a ce doute, il y a ce dire, mais est-ce qu'on pourra pas revenir là-dessus, etc. Si on fait le bilan dans le cas des autoroutes, sur l'intérêt général, bon, l'intérêt des grands groupes privés
les autoroutes,
a été
c'est epsilon par rapport au volume des privatisations.
Tout à fait, c'est un cas.
Vous pouvez parler de la Compagnie Générale d'Électricité, de Rhône-Poulain, de Saint-Gobain.
On peut aussi parler d'autres cas, oui, tout à fait.
De Suez, de...
Mais ce que je voulais dire, c'est que leur intérêt a été préservé, l'intérêt des banquiers d'affaires qui ont, au passage, touché des commissions a été préservé, mais on peut se demander pourquoi, à l'époque, un gouvernement, en l'occurrence M. de Villepin, supposé défendre l'intérêt général, a procédé ainsi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris les garanties dont vous parliez tout à l'heure pour, à mon avis, et ça rejoint, à mon avis, un point dont nous devrions discuter à nouveau, c'est pour recevoir une obole maintenant, c'est-à-dire que on se prive de dividendes futurs que l'on va réserver à des actionnaires privés. Et l'un des facteurs explicatifs, c'est effectivement le fait qu'une grande partie des dirigeants français sont complètement hypnotisés par le pacte de stabilité, par les critères relatifs au déficit public et à la dette. Et à mon sens, ce problème de finances publiques qui a pu être évoqué tout à l'heure, il est tout relatif. Je veux dire, quand on regarde la politique fiscale qui a été menée par Emmanuel Macron depuis son arrivée, très récente, il a proposé donc environ un point de PIB de baisse d'impôts sur le quinquennat, et il y a déjà sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire unique.
Le
rapport, c'est qu'on est en train de dire qu'il faut des ressources pour le désendettement, et on se prive d'un autre côté de ressources très très importantes.
Non, ça c'est pas des dernières années. 40 points de PIB.
Ça, ce n'est pas sa responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ici une contradiction.
Pour vous, c'est-à-dire se servir de l'argent des privatisations pour désendetter et pour financer des programmes d'investissement, ça n'est pas la bonne façon de faire ?
Alors, d'une part, je relativise la gravité de l'endettement public français. Je pense que le déficit extérieur est un problème, mais pas le déficit public de la France actuellement. Et puis d'autre part, je veux dire, c'est de la très mauvaise gestion, c'est une mauvaise opération financière. Aujourd'hui, le taux d'intérêt sur la dette publique française, si vous regardez sur les taux jusqu'à des échéances de 5 ans, ce sont des taux négatifs. Et à 10 ans, on emprunte à peu près 0,8%. Donc, en procédant ainsi, c'est-à-dire en finançant un investissement par la vente d'un actif qui génère aujourd'hui à peu près 5% de rendement dans le cas de la Française des Jeux, alors qu'on peut emprunter pour presque 7 fois moins cher, me semble sur un plan strictement de gestion financière complètement absurde. Oui.
Ah, c'est vrai, Eli Cohen. Étant donné le niveau des taux d'intérêt, pourquoi ne pas emprunter pour investir ?
Ce qui est en train de dire, c'est qu'il n'y a aucune contrainte de dette. On peut s'endetter de manière illimitée. On est à une dette qui représente 100 points de PIB. On a fait 40 points de PIB au cours des 10 dernières années. En 1974, on avait une dette qui ne représentait que 20 points de PIB. On est passé de 20 points de PIB à 100 points de PIB. C'est-à-dire qu'on a fabriqué une dette absolument gigantesque. Et on estime qu'alors même qu'on a des actifs qui ne sont pas nécessaires stratégiquement, la grande priorité, c'est de générer de la dette nouvelle. C'est quand même incroyable comme raisonnement.
Des actifs qui ne sont pas stratégiques, vous les évalueriez à combien aujourd'hui, Eli Cohen ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait vendre ? Il y a l'État, par exemple, c'est ce qu'on peut voir sur le site de l'Agence des participations de l'État, 81 entreprises dans lesquelles il est...
Je crois que le total des participations de l'État aujourd'hui, ça doit se monter à peu près à 85 milliards d'euros. Sur ces 85 milliards d'euros, moi je dirais que ce qui est absolument fondamental à conserver, c'est le réseau de transport d'électricité, le réseau de transport de télécommunications, des participations dans des entreprises de défense maintenues, les Thalès et compagnie. Et pour le reste, vraiment, la Française des Jeux, l'ADP, etc., c'est vraiment pas des choses qu'il faut conserver à tout prix dans la situation budgétaire, financière et d'endettement qui est la nôtre.
Est-ce qu'il ne faut pas d'ailleurs faire également, Philippe Léger, le bilan du travail de l'État comme actionnaire? C'est-à-dire là, vous avez fait beaucoup le bilan des privatisations, notamment celle des autoroutes. Mais quand on regarde le rapport de la Cour des comptes de janvier 2017, on peut lire ceci. La situation d'ensemble des entreprises à participation publique se dégrade. La nette détérioration s'accompagne corrélativement de déséquilibres croissants pour les finances publiques du fait notamment des besoins de recapitalisation. Et il y a ensuite cette phrase qui rejoint ce que disait Eli Cohen tout à l'heure. L'entreprise publique n'est plus le modèle, y compris social, qu'elle a incarné au siècle précédent.
Alors, plusieurs remarques. Oui, on peut faire le bilan de l'État actionnaire. Par exemple, les décisions que l'État a pu prendre en termes d'investissement au niveau de la SNCF n'ont pas toujours été très judicieux et portent donc une responsabilité importante dans l'augmentation de la dette de la SNCF. Le rapport en question dont vous parlez, bon, je l'ai lu. Le problème, si vous voulez, c'est que y a une partie des subventions et dépenses d'investissement de l'État qui sont effectuées, qui sont parfaitement légitimes, qui sont la contrepartie de tarifs sociaux, de développement d'infrastructures, d'entretien, etc. Je ne pense pas que la situation soit aussi dramatique.
Donc, on ne peut pas appliquer des critères économiques comme pour n'importe quelle entreprise.
Le message essentiel de ce rapport, c'est lorsqu'on juge l'action de l'État actionnaire, on ne parle pas de l'État auteur de politique publique, on ne parle pas de l'État responsable de la paix civile, on parle de l'État actionnaire. Ce que dit ce rapport, c'est que la gestion de sa responsabilité d'actionnaire par l'État a été calamiteuse.
Est-ce que vous auriez un contre-exemple peut-être justement à fournir?
Non, je pense que l'État est un mauvais actionnaire, mais c'est pas parce que la politique qui est menée est mauvaise qu'il faut s'en servir comme, je dirais, d'un argument pour privatiser, etc. Donc la question, elle est celle des critères de gestion, elle est celle des conflits d'intérêts dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de l'intrication entre une partie du sommet de l'appareil d'État et des directions des grandes entreprises. Qui explique aussi qu'un certain nombre de décisions qui peuvent paraître mauvaises ou absurdes du point de vue de l'intérêt général ont été prises. Elles ont été prises dans d'autres intérêts.
Mais il y a un point que nous avons soulevé et qu'on n'a pas développé. Quel enseignement tirez-vous du fait que lorsqu'on a lancé le programme de privatisation en voulant associer les Français à l'effort de privatisation, on avait réussi à convaincre 7 millions de petits actionnaires à détenir des actions.
C'était 86?
Oui, oui. Et que 10 ans après, 15 ans après, on est perdu la moitié. Il ne reste plus que 3,5 millions d'actionnaires individuels. Si ces privatisations avaient été tellement intéressantes pour ceux qui avaient investi dans les entreprises publiques, comment expliquez-vous l'effondrement de l'action de France Télécom, l'effondrement de l'action EDF, l'effondrement de l'action de Gaz de France, l'effondrement... Comment expliquez-vous tout cela?
Vous êtes en train de démontrer que finalement, ce n'était pas des bonnes privatisations, alors.
Les investisseurs, c'était une catastrophe. Pour l'État, ça a été une super bonne affaire.
Philippe Léger?
Dans certains cas, oui, tout à fait. Dans certains cas, ça a été une bonne affaire pour l'État, oui.
Bon, alors je ne sais pas, oui, mais du coup, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsqu'on fait un bilan des privatisations, il faut avoir présent à l'esprit tous les éléments, c'est-à-dire un certain nombre d'erreurs techniques que nous avons évoquées, un défaut de régulation qui n'a pas accompagné suffisamment les opérations de privatisation, et en même temps, le fait que ces opérations, qui auraient dû être l'occasion d'associer les petits porteurs à l'opération, ont été des échecs, ce qui fait qu'on se trouve dans une situation où près de la moitié du capital des grandes entreprises françaises sont détenues par des investisseurs étrangers, et que du coup, comme on a dégoûté les petits investisseurs, les petits porteurs, ceux-là ne sont pas présents dans le capital des entreprises françaises.
On a parlé ce soir de privatisation. Juste d'un mot, est-ce qu'il faudrait aussi penser nationalisation, Philippe Léger, dans certains cas aujourd'hui?
Bien sûr, il en a d'ailleurs été question dans le débat public au sujet de Florange, il n'y a pas si longtemps. C'est une hypothèse qui a été sérieusement examinée. Il y a même eu une note à Bercy qui indiquait que c'était tout à fait faisable. Et je pense que dans un cas comme celui-ci, c'eût été une bonne chose.
Juste d'un mot, dans certains cas, une nationalisation, renationalisation, nationalisation provisoire.
Ah, ça peut être tout à fait justifié, mais Florent, j'ai le plus mauvais exemple qu'on puisse donner de ce point de vue-là.
Nous ne sommes toujours pas d'accord.
Ben voilà, on ne vous mettra pas d'accord ce soir. Merci en tout cas à l'un et à l'autre, Élie Cohen et Philippe Léger, d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa. Avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Arnaud Laporte, la dispute.
C'est tout comme lancement. C'est un peu court quand même.
Moi j'ai décidé d'épurer mon jeu.
Ça parce désormais. Que vous êtes jaloux parce que j'ai passé le bac dans le journal d'Aurélie Clifford tout
ouais,
à l'heure.
Et mais
que
j'ai votre note. Envie. C'est pas brillant. Hein.
Oh. C'est le 12 juillet les notes. dispute théâtre ce soir et dans du Grain à Moudre demain, Hervé.
Peut-on faire des infidélités à la loi? On s'intéressera notamment à l'expérimentation, aux dérogations à la loi.
Nous écouterons ça comme chaque soir.